présent la nuit allait être longue, mais ils savaient qu'ils tiendraient. Son dos était comme percé de mille petites pointes. Petites pointes.
Les anges qui font de la muscu.
La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Cartable.
Nous sommes les éco-volontaires du Collège Molière.
Avez-vous des réponses pour les questions suivantes ?
Que proposez-vous contre le harcèlement et les discriminations ?
Que proposez-vous pour faciliter le trajet vers l'école ?
Qu'est-ce qui vous aiderait à mieux travailler au collège ou à l'école ?
Si vous avez des réponses à ces questions, n'hésitez pas à venir nous les soumettre au podcaston.
Le podcaston sera présent au collège Assiette Gébar, à la semaine de la rentrée, et au collège Molière, le 12. Merci pour votre écoute. Au revoir.
Il se tape sur la tête, boum, il se retape sur la tête, boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses, t'as besoin de comprendre.
Nous sommes la classe des CE1B de Jeulecurie A.
Nous allons vous réciter des poèmes sur le thème des oiseaux que nous avons écrit.
Les oiseaux qui n'existent pas. Un aigle avec une tétine et une couche, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un rouge-gorge jaune avec un bec démesuré, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un pigeon avec un manteau en fourrure, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Naël?
Les oiseaux en noir. Un oiseau qui fait un film et qui passe au cinéma, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un oiseau qui vole la nuit avec les yeux fermés, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un oiseau qui va dans une fête, qui est dans un château, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas Imran et Nidouma?
Un oiseau avec un chapeau de paille et une grande valise, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une mésange avec une banane sur la tête qui conduit une voiture, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un pivert qui danse avec une casquette de Pokémon, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Mais pourquoi pas?
Les oiseaux farfelus, un cygne bariolé qui a la taille d'un colibri, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une corneille toute blanche avec les pattes de la taille d'une école, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une mésange toute rouge qui ouvre une école, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Alicia?
Les
animaux qui sont rigolos. Un perroquet qui conduit une voiture géante et rose. Mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une oie qui porte une robe et un short blanc, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une mésange qui fait de la musculation et du karaté, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Victoria?
Les oiseaux qui dansent. Un oiseau qui danse avec un boubou, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un oiseau qui danse la macarena avec un tutu, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un oiseau qui danse le logobi avec des lunettes, un chapeau et des claquettes aux pattes, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, qu'est-ce que tu...
L'arbre se balade au milieu de l'océan
avec tous ses camarades.
Tout à coup un éléphant
qui boit de l'eau
en mettant son manteau. L'éléphant rencontre un dauphin qui lui donne des consignes
et lui trouve ses beaux bras.
Tout à coup un signe,
il danse avec sa famille
en sautant sur les lignes.
Au pays de l'imaginaire, chanson de Pascal Loquin avec les enfants de l'école Frères Voisins dans l'album Animaux on the Rock.
Les oiseaux rigolos. Un pinson tout rouge avec un chapeau et une montre à la patte, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un pigeon qui s'appelle Calcul avec une écharpe jaune, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une mésange qui s'appelle Récréation avec un bracelet en argent, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Assa?
Les colombes. Une colombe avec un parachute qui a oublié comment voler, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Des colombes roses au lieu d'être blanches. Une colombe qui fait du ski avec un t-shirt, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Ezra?
Les oiseaux clowns. Une mésange qui mange des sushis avec des baguettes chinoises, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un colibri de 100 mètres qui ne sait pas voler, ni pondre un œuf, ni attraper des insectes, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une autruche qui prend les transports et qui regarde son téléphone, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Shaima?
Une perruche qui mange un caillou géant ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un pigeon qui mange une banane, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un petit ver qui danse à péter et qui fait n'importe quoi et casse des œufs avec des pattes de feu, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une pie qui fait du vélo, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Kaina?
Les oiseaux sportifs, un flamant rose qui porte 10 haltères, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un corbeau qui fait des pompes, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Un aigle qui fait du patin à glace, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une mésange qui fait de la natation, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, Annie?
Les élèves de la classe de CE1E de l'école Henri Barbusse à Ivry-sur-Seine.
Cette année, nous travaillons sur le peintre Claude Monet.
En plus de vous raconter nos visites au musée et nos découvertes, on vous propose un jeu qui s'appelle « Écoute mon tableau ».
Le premier tableau que vous avez écouté est l'Encart Saint-Lazare.
Il a été peint en 1877 par Claude Monet.
Le tableau est exposé dans le Musée National Gallery à Londres, au Royaume-Uni.
Sur le tableau, on observe une gare avec des trains. Il y a beaucoup de fumée blanche, c'est la vapeur du train. On voit aussi beaucoup de personnes. On dirait qu'il y a beaucoup de bruit et que ça bouge beaucoup.
Pour jouer avec nous, il faut une feuille et de quoi mettre de la couleur. Écoutez attentivement et dessinez ce que tu entends, ce que tu imagines et ce que tu ressens. Bonne écoute!
Écoute mon tableau!
Tableau 2!
Maintenant, nous allons réécouter une seconde fois.
Si vous avez du mal à entendre, vous pouvez vous aider d'un casque.
Thank you.
nous aimerions bien voir vos dessins.
Au revoir.
Le loup de Meylan sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
École Libris.
Les livres.
Bonjour.
On vient du centre de loisirs de l'école Rosa Parks. On a tous 10 ans et moi je m'appelle Salomé.
Moi je m'appelle Lucas.
Je me nomme Oscar.
Et moi je suis Vlad.
Je m'appelle Tiffaine, je suis en CM1 et je vais vous présenter le dispositif qu'il a lu. En fait, c'est un dispositif, donc on élit 4 livres et on doit les lire et ensuite les enfants doivent choisir le meilleur. Donc là, il y avait Les Abîmés, il y avait La Lettre de Sacha, ça raconte l'histoire d'un enfant qui a fui son pays parce qu'il y avait la guerre, qui est arrivé en France et qui écrit une lettre à une écrivaine qui est venue dans sa classe. Donc il y avait aussi Avant que la nuit tombe, ça raconte l'histoire d'un enfant qui est sourd, muet et aveugle d'un œil. Et un jour, son œil valide, il commence à défaillir et du coup, ils vont essayer de sauver cet œil. Et donc ensuite, il y a Les Oiseaux Rares. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui reçoit une lettre de sa tante qui a un handicap au cerveau pour aller observer des oiseaux rares.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre qui s'appelle Les Abîmés. C'est une trilogie de Catherine Verlaguet, édition théâtrale jeunesse.
Maintenant, nous allons vous lire le résumé après cette présentation de l'autrice et de l'édition. Après quelques mois passés en foyer, Ludo et Petit Lu reviennent vivre chez leurs parents. Mais les violences recommencent. Tandis que Petit Lu subit les cris, Ludo, lui, est puni en silence. Quand les services sociaux reviennent les chercher, Ludo fait une fugue. Petit Lu entame un chemin de résilience grâce à Nora, l'éducatrice, et à la couture qui lui permet de raccommoder les morceaux déchirés. Ludo, lui, se cache chez son ami Faiza, puis chez une vieille dame qui lui apprend le piano et comment transmettre la colère en musique. Dans cette trilogie consolatrice, Catherine Verlaguet traite des violences intrafamiliales avec une grande sensibilité et ouvre ainsi les voies de la reconstruction de soi.
Est-ce que, Lucas, tu peux nous parler des différents personnages de l'histoire ?
Alors, Petit Lulu, il aime bien couver des œufs, il est tendre. Ludo, il adore faire la bagarre. Nora, l'éducatrice, elle est gentille, elle est tendre avec les enfants. Le papa, il tape Ludo et Petit Lulu. La maman, elle a pas envie, elle dit rien. Elle est muette. Faïza, la copine de Ludo, elle aime bien s'occuper des autres. Et Anna, elle est gentille, elle aime bien faire du piano et elle aime bien donner des cours.
Est-ce que vous avez été marqué par le fait que c'était un livre fait pour être joué au théâtre? Est-ce que ça vous a semblé différent des autres livres qui ne sont pas faits pour le théâtre? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant que ce soit écrit de cette manière-là?
Déjà, tu te mets un peu plus dans la peau du personnage. Tu comprends un peu mieux ce qu'il ressent. Enfin, c'est pas comme dans certains livres où c'est écrit comme ça. Tu ressens pas le livre, en fait. Là, tu ressens l'histoire, tu ressens le livre. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé ce livre.
Il y a moins d'écriture que dans des gros romans comme Harry Potter. Et en plus, il y a les noms des personnages avant le dialogue, ce qui est totalement différent des livres comme les romans, les bandes dessinées.
Et puis ensuite aussi, ce qui est intéressant dedans, parce que comme l'a dit Oscar, c'est pas au même endroit. Genre, il marqué Faiza et ils mettent les paroles, ils disent pas quelque chose dit Faiza, donc c'est bien. Et après aussi, ce qui est différent, c'est qu'ils mettent les actions des gens, mais ils décrivent pas forcément les endroits. Ils mettent pas la chambre bleue, ils mettent que les gens ils rentrent dans la chambre. Alors que dans les autres livres, ils vont plutôt faire ça. Du coup, c'est plus des actions quand il y a des didascalies et c'est différent.
Pour chacun, quel est le passage qui vous a plu ou marqué ?
Si Lulu, il couve un œuf sous la couverture de son placard, il sort du placard et là, Ludo, il prend l'œuf et à la place, il met un poussin. Après, il part. Petit Lulu, il revient et là, il fait « Oh oui, il a éclos !» Et je vais l'appeler Ogre. Comme ça, il sera grand et fort. Il saura se défendre.
Alors moi, mon moment préféré, c'est quand il y a Nora, l'éducatrice, qui est aussi leur maîtresse, qui leur demande en devoir de faire un arbre généalogique. Et à un moment, elle voit qu'il n'y a qu'une graine. Il lui dit qu'en fait, faut bien que l'arbre généalogique il commence à un moment et que il est la graine et qu'il a des racines, pas solides, mais des racines quand même un peu, mais pas beaucoup du tout. Et voilà quoi.
Nous allons vous présenter notre passage préféré. On va en quelque sorte le jouer.
Moi, Salomé, je vais interpréter Nora l'éducatrice et Tiffen va interpréter Tilu. Tilu, t'as fini ton exposé pour la classe ?
J'ai fini, oui.
Sur l'arbre généalogique ?
Oui.
T'as trouvé des trucs ?
C'est bon.
Tu veux me montrer qu'on revoit ça ensemble ?
Non.
T'es sûr ?
C'est bon, je te dis.
Bon.
Ça va, merci.
Petit Lu ?
Nora fait la maîtresse.
C'est quoi ça ?
La pochette de Petit Lu est vide. Sur la couverture, rien.
Pourquoi elle est vide, ta pochette ?
Elle est pas vide.
Y a rien. Sur la couverture, y a rien. Et dedans ?
Y a une graine, là. Dedans, c'est une graine.
Une graine ?
C'est le début de l'arbre, la graine, non ? La graine, c'est moi. Mes parents, ils ont planté une graine et ils l'ont oubliée. Comme ça, dans la terre trop humide, trimballée par le vent. Il y a des tas de graines qui poussent pas, qui pourrissent. Moi, je pousse quand même, dans le bazar des autres, à la recherche de la lumière. Alors on dira que moi, je suis la graine, ok ? Pas de racines derrière moi. Pas de racines solides, en tout cas. Mais faut bien que ça commence à un moment donné, l'arbre généalogique, non ? Faut bien quelqu'un, tout en haut. Alors on dira que mon arbre généalogique, il commence avec moi.
Moi, j'aimerais bien vous présenter mon passage préféré qui est le moment où Ludo va chez Anna et passe 3 ans chez elle.
Mon moment préféré, que je trouve vraiment très bien et rigolo, c'est quand l'arrière-grand-tante de Faïza, Anna, va chez le libraire de son village. Il demande des livres scolaires de 6e. Du coup, le libraire, il est très étonné. Il dit « Vous, des livres scolaires de 6e ?»
Après sa fugue, Ludo part chez la grande tante de Faïza, nommée Anna. Faïza parle avec Ludo.
Ludo, chez Anna, j'y passe 3 années, 3 belles années, les plus belles de mon existence. Au bout de quelques mois que je suis là-bas, elle me montre une enveloppe dans une commode.
Faïza,
c'est pour toi, elle dit.
Ludo,
tu savais ?
Faïza,
évidemment.
Ludo,
une enveloppe avec de l'argent.
Faïza,
s'il m'arrive quelque chose.
Ludo.
Parfois, quand elle n'est pas là, j'ouvre la commode pour vérifier. L'enveloppe est toujours là, elle ne bouge pas. Tous les mois, elle s'épaissit un petit peu.
Faïza.
Tu n'hésites pas, hein. Si un jour, tu prends tout ça et tout ce que tu veux dans la maison.
Ludo.
Là-bas, c'est chez moi. Chez moi, vraiment chez moi, parce que je m'y sens en sécurité. Là-bas, il n'y a que quelques maisons, quelques habitants, et tout le monde se connaît.
Faïza.
Bonjour, dit Anna à la libraire un jour. Je voudrais des manuels scolaires de 6e, s'il vous plaît. La libraire s'étonne. J'ai 90 ans, je suis à la retraite et je m'ennuie. Ça vous pose un problème? J'ai arrêté l'école après le certificat d'études. On ne m'a pas laissé le choix. Je voudrais continuer, maintenant que j'ai mon mot à dire. Pour mon plaisir, je voudrais continuer, vous le permettez? J'ai bien le droit de me faire plaisir, non? La libraire n'argumente pas, elle commande les livres. Quand je viens en vacances, je t'apporte tes cours et les fiches d'exercice pour compléter. Je te donne des nouvelles de ton frère au foyer.
Ludo. Anna a un piano. Elle m'apprend.
Faïza.
J'aime bien t'entendre jouer quand je viens.
Les fugues de Bach.
Ludo. Aux quelques personnes qui savent que je suis là, Anna dit que je suis un neveu éloigné ou en rupture avec mes parents. Qu'elle me garde en attendant que ça se calme. Personne ne pose de questions. Personne n'éduque non plus, je crois. Mais personne n'appelle la police en tout cas.
Faïza.
Le soir, il arrive qu'Anna nous parle de ses parents. Jamais elle n'a su, la guerre, ce qu'ils ont fait ou pas, ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose, elle le sent, mais jamais elle n'en parlait. Elle dit que c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu se marier, pas voulu avoir d'enfant. Elle n'a pas d'histoire à transmettre, a l'impression qu'elle est née de secrets canassés dont elle n'a pas la clé. Elle dit qu'accueillir Ludo sur la fin de sa vie, finalement, c'est un cadeau. Sa libération de Paris, son armistice avec la vie.
Quelles sont les principales qualités du livre, selon vous ?
C'est un peu émouvant, c'est triste, surtout. En tout cas, c'est pas pour les maternelles. Pour moi, c'est CM2, 6e.
Faut pas être trop sentimental pour un livre comme ça, parce que sinon... Je dirais que c'est un peu de pleurer. Hein.
Moi, j'ai trouvé que c'était un livre triste, c'est sûr, mais aussi un peu touchant parce qu'il y a beaucoup de moments forts dans ce livre. Et puis aussi qu'il est bien parce que ça dénonce les violences, quoi.
Je réagis par rapport à vos réponses. En me demandant si ce livre vous a appris quelque chose sur les violences. Est-ce que, en lisant ce livre, vous avez appris quelque chose, vous avez retenu un conseil ?
Faut pas maltraiter les enfants, c'est pas bien, c'est pas comme le père. Le père, il est méchant, faut pas être méchant, faut s'expliquer, faut pas utiliser la violence comme explication, faut utiliser la parole, parce que une bouche c'est fait pour parler, ça sert pas à rien,
moi surtout ce que je veux dire c'est que si t'as ça comme ça, que tu te fais embêter, que tes parents ils sont violents avec toi, mieux, c'est d'en parler et comme ça, ça va se régler. Et aussi que si on se fait embêter, c'est pas normal parce que dans le livre, les enfants ils disent pas parce qu'ils croient que c'est normal. Mais c'est pas du tout normal.
Un conseil que ce livre m'a donné et je voudrais le partager aux auditeurs de Radio Cartable, ne jamais frapper les moins forts et plus petits que soi, parce que les personnes qu'on ne remarque pas dans vos entourages qui n'ont pas même les idées que vous, qui n'ont pas même les mêmes idées que vous, peuvent vous dénoncer aux autorités et vous pouvez faire de la prison pour ça. Du coup, c'est le conseil que je voulais partager.
Et en fait, j'ai trouvé aussi que ce livre, ça t'apprenait beaucoup de choses sur la vie, que parfois il n'y avait pas que des choses bien dans la vie. Mais que des fois, il y avait quand même quelques moments qui étaient bien, où tu pouvais te sentir bien et tout.
École Libris.
École Libris.
Les livres
qu'il faut
lire.
Au revoir.
cartable.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes les CM2 de l'école Guy Moquet. Nous avons eu la chance de visiter le théâtre Antoine Vitez. Lucien nous a appris que ce théâtre était une ancienne grange et qu'il avait été rénové en 1980 pour devenir un lieu culturel. Elle nous a présenté plusieurs métiers du théâtre, comme le directeur technique et la secrétaire générale que nous avons pu interviewer. Mais il y a aussi le régisseur, les techniciens lumière et son.
Lucia Rios, chargée d'action culturelle et relations publiques enfance au théâtre Antoine Vitez.
Qui a 50 ans, ce que vous avez autour de vous, c'était une grange abandonnée, donc pas du tout un théâtre. Et en fait, la mairie d'Ivry va faire des travaux et elle va construire un théâtre dans cette grange abandonnée. Ils vont proposer à un monsieur qui s'appelait Antoine Vitez de diriger ce lieu. Antoine Vitez, c'était un homme de théâtre qui était très implanté dans Ivry. Et c'était un metteur en scène. Un metteur en scène, c'est la personne qui va créer le spectacle, qui va prendre les décisions, qui va diriger les acteurs et les actrices. Lui, il était un metteur en scène et il avait sa compagnie de théâtre. Et ils étaient implantés à Ivry depuis des années. Et c'était la compagnie des quartiers d'Ivry. Et en fait, il faisait plein de spectacles partout dans la ville. Antoine Vitez va partir très vite pour diriger un autre lieu à Paris qui s'appelle le Théâtre National de Chaillot. Et après, le théâtre des quartiers d'Ivry vont déménager à la manufacture des œillets. Et ça, c'est un centre dramatique national. Ça veut dire que c'est un théâtre qui doit rayonner dans un territoire beaucoup plus grand. Donc lui, c'est un CDN pour le Val-de-Marne. Alors que le théâtre Antoine Vitez, il va rester un théâtre plus municipal. Et il va pouvoir développer son hospitalité, prendre plus de place, développer son projet. Et il est depuis 2013 dirigé par Christophe Adriani, que vous avez peut-être déjà croisé lors de vos venues.
Lucien nous a montré la grande salle qui peut accueillir 228 spectateurs. Et la petite, 110. Ensuite, nous avons découvert les loges où se préparent les artistes avant de rentrer sur la scène. Il y avait un gros monte-charge qui ressemblait à une petite grue. Il sert à transporter les décors de la rue jusqu'à l'intérieur de la grande salle.
Nous avons appris des nouveaux mots et expressions. La cour qui désigne la gauche de la scène et le jardin qui désigne la droite. L'avant-scène, partie qui se trouve juste devant la scène. Les gélatines qui sont les filtres colorés que l'on met sur les projecteurs pour modifier les couleurs de l'éclairage.
On a pour coutume de dire merde à quelqu'un qui joue au théâtre pour lui souhaiter bonne chance. La personne doit répondre « je prends ». Par superstition, il ne faut pas porter de vêtements verts au théâtre.
Nous allons à présent vous parler des interviews que nous avons réalisées. Tout d'abord, le directeur technique Rémi Vanderheim. Il s'occupe de toute la partie technique, le choix des lumières et leurs effets sur la scène, le son. Il va échanger avec le metteur en scène pour réaliser ses souhaits.
Bonjour.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Donc je suis Rémi Vanderheim, le tout nouveau directeur technique de cette structure. Je suis arrivé il y a quelques semaines seulement. Avant ça, je travaillais au Théâtre du Rond-Point à Paris, à la Régie Générale.
Êtes-vous content de ce travail ?
Oui, autrement je ne serais pas là. J'ai la chance de pouvoir aimer mon métier et avoir choisi d'être ici.
Êtes-vous déjà venu dans ce théâtre quand vous étiez petit ?
Alors non, je n'y suis pas venu petit, j'y suis venu il y a assez longtemps, dans les années 90, pour travailler sur une pièce avec Adèle Hakim, qui était directeur du TQI il y a très longtemps, il y a 25 ans environ, et où j'avais travaillé sur un spectacle avec lui ici, mais en tant que technicien. Je faisais de la lumière à l'époque avec lui, voilà.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Comment avez-vous eu connaissance de ce métier ?
Alors, j'ai choisi ce métier presque par hasard. C'était une rencontre avec des amis qui voulaient faire du théâtre, et puis je les ai un peu accompagnés, puis petit à petit j'ai appris le travail sur le terrain avec eux en compagnie. On montait des spectacles, et puis de fil en aiguille, comme on dit, je me suis professionnalisé, j'ai appris le métier en allant dans des écoles, dans des centres de formation, et voilà, et ça fait maintenant 35 ans que je fais ce métier.
En quoi consiste votre métier ?
Essayer de mettre au service du projet les moyens humains et matériels, c'est-à-dire le nombre de personnes adéquates, avec les compétences adéquates. On regarde un projet artistique, on évoquait les différents métiers tout à l'heure, l'habillage, la lumière, le son, le plateau. Et donc pour chaque spectacle, il y a des attentes différentes. Ce n'est pas un spectacle de danse, il n'y a pas beaucoup de décors par exemple, rarement. Donc il y a besoin de moins de monde au plateau, il n'y a pas besoin de constructeurs, il n'y a pas besoin de... la marionnette, c'est encore différent, la lumière est très précise. Voilà, donc à chaque fois, c'est d'essayer de monter des équipes en fonction des spectacles, et puis surtout de s'assurer qu'il y ait aussi le matériel, les projecteurs, les gélatines, enfin tout le matériel pour que le spectacle puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, il y a un autre aspect du métier qui regroupe là pour le coup tout le bâtiment, qui est aussi de s'assurer que le bâtiment soit dans de bonnes conditions d'utilisation et surtout avec des notions de sécurité pour l'accueil du public, quoi.
Y a-t-il une formation spéciale pour exercer votre profession ?
Depuis une vingtaine d'années, oui. Avant, elle n'existait pas. Il y a aujourd'hui des formations spécifiques de directeurs techniques de spectacles et d'événements. Ouais. C'est plutôt l'environnement social de la profession qui s'est organisé pour essayer de faire monter en compétences les techniciens vers la régie générale, vers la direction technique, dans des centres de formation privés. Alors il y a l'ENSAT, qui est un établissement public.
Quelles sont les compétences indispensables pour exercer votre métier ?
Aimer le spectacle. Aimer travailler en équipe, aimer tout le jour se renouveler, parce que chaque spectacle, c'est une nouvelle aventure. Il n'y a pas, à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un prototype. On ne peut pas imaginer faire tout le temps la même chose. Il y a des choses qui se ressemblent. On va toujours accrocher des projecteurs, oui, mais ce ne sera jamais de la même façon, jamais au même endroit, jamais pour la même chose. Donc il y a tout le temps un renouvellement permanent. À chaque fois qu'un nouveau spectacle arrive, c'est une nouvelle aventure qui commence. Donc ça c'est chouette.
Quel est votre contact avec les artistes ?
Alors ça dépend de la durée de la présence de l'artiste dans la maison. Ça dépend si... il y a plein de cas de figure différents dans l'accueil de spectacles. Parfois, ce sont des spectacles en coproduction, c'est-à-dire que très en amont, avant même que le spectacle soit créé, on est déjà en relation et financière, et artistique, et technique avec le projet. Donc on rencontre le metteur en scène, on peut rencontrer l'auteur, on peut rencontrer, pour commencer à voir comment s'élaborent les choses. À d'autres moments, c'est juste un contrat de cession, c'est-à-dire que le spectacle existe, on l'achète, il vient jouer une fois, il repart. Là, forcément, le contact avec les artistes est plus éphémère, il dure moins longtemps. Il y a aussi des résidences, où là, ils peuvent venir plusieurs fois une semaine sur une année. Ils peuvent venir deux, trois fois pendant une semaine, venir répéter, venir commencer leur création. Donc, à chaque fois, ce sont des conditions d'accueil différentes. Et donc, mon rapport à l'artiste, à chaque fois, est différent aussi.
Qu'appréciez-vous le plus dans votre métier ?
Quand j'arrive là le matin, je ne sais jamais vraiment exactement comment la journée va se passer. Là, par exemple, surprise, j'étais un peu au courant, mais voilà, c'est très agréable, il y a des rencontres, il y a des discussions, on va commencer à préparer un nouveau spectacle, il y en a d'autres qui se préparent, il y a des coups de fil qui vont arriver d'un spectacle qui va peut-être se passer la semaine prochaine, et puis parfois dans un an, et à chaque fois, c'est se plonger dans des événements, dans des temporalités différentes. Donc c'est ce côté un peu surprise au quotidien de Je ne peux pas m'ennuyer une seconde, quoi.
Pouvez-vous nous raconter une anecdote drôle qui vous est arrivée lors d'un spectacle ?
Oh là là, alors ça, c'est une vieille histoire. Puis c'est avec des comédiens, en plus. C'était dans un spectacle qui s'appelait En attendant Godot, il y a 30 ans de cela. Il y avait un comédien extraordinaire qui s'appelait Robert Hirsch, qui était déjà un vieux monsieur à l'époque, qui est mort depuis, mais qui était vraiment un très grand comédien. Et il s'était pris en grippe avec un technicien du plateau. Ils n'arrêtaient pas de se chamailler, mais ça devenait un petit peu pesant. Et le jour de la dernière, le technicien au plateau, il avait des vieux godillots qui trimbalaient sur lui, comme ça. C'était son personnage qui voulait ça. Et donc, il partait en coulisses, puis il attrapait ses vieilles chaussures, comme ça, pour se mettre sur l'épaule et tout ça. Et le technicien les avait cloués sur le plancher. Ce qui fait que quand il est arrivé en coulisses pour prendre ses godillots, il n'a pas pu les prendre. Voilà, c'était une façon pas de se moquer de lui, mais enfin de lui dire, voilà, tu m'as cassé les pieds, bah tiens, maintenant, essaye d'attraper tes godillots, quoi. Bon, c'est exceptionnel, hein, mais c'était vraiment, ça m'avait beaucoup fait rire, en tout cas.
Comment fait-on des effets spéciaux ?
Effets spéciaux, c'est un titre très large, donc ça englobe plein de choses différentes. Ça peut être, parfois, alors je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une couverture de survie, ce truc un peu... brillant d'un côté, il y a ça dans les voitures parfois ou quand on prend l'avion, enfin bon, et ben ça, si on la froisse par exemple et puis qu'on fait taper qu'on met un projecteur dessus, ça va donner un effet de lumière qui va être assez étonnant, parce que ça va la lumière va se réfléchir comme dans un miroir cassé finalement. Et pour un peu qu'on le fasse bouger un petit peu comme ça, on a déjà fait ça sur des grandes toiles qui sont, par exemple, au lointain du plateau, comme ça. Et ça fait un effet de lumière très surprenant. On ne sait plus si c'est de la projection, si c'est... Alors que c'est simplement un bout de couverture, un bout de... Et c'est ça un peu la magie du théâtre, c'est qu'on arrive à faire des effets visuels qui semblent extraordinairement compliqués, alors qu'ils sont réalisés avec trois bouts de ficelle. Et c'est ce côté artisanal des effets spéciaux au théâtre qui est assez magique, quoi.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Reportage dans mon cartable.
Puis nous avons discuté avec Lucie Cabiac, la secrétaire générale qui s'occupe de faire le lien entre les artistes et les équipes du théâtre.
Donc je suis Lucie Cabiac, donc je travaille depuis 15 ans ici. Et je vais du coup vous laisser la parole.
Êtes-vous déjà venue dans ce théâtre quand vous étiez petit ?
Quand j'étais petite ? Non, parce que j'habitais pas du tout Ivry-sur-Seine. J'ai pas eu la chance comme vous d'aller... découvrir un spectacle une fois par an, parce que c'est quelque chose qui existe à Ivry, mais qui n'existe pas ailleurs. Moi, j'ai grandi dans une petite ville où il y avait un centre culturel, où j'ai eu la chance quand même de voir des spectacles, mais pas autant.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Au lycée, j'ai participé à un projet de théâtre sur scène, ce que je n'ai pas trop aimé. Par contre, j'ai adoré organiser la tenue de ce spectacle. Avec les lycéens et lycéennes qui faisaient partie aussi du projet. Après, j'étais bénévole pour des compagnies de théâtre quand j'étais étudiante, pour les aider à organiser, à rendre visible leur travail. Et j'ai adoré faire ça. Mais j'ai suivi des études d'histoire, ce qui a priori n'a rien à voir, a priori. Et puis après, j'ai travaillé dans une société qui s'occupe de défendre le droit des artistes et le soutien à la création artistique, en gros, qui amène des aides financières pour que les spectacles puissent se faire. Et j'ai travaillé assez longtemps dans cette société. Et en fait, après, j'avais envie de travailler dans un lieu, parce qu'un lieu, bah, c'est des murs qui sont dans une ville. Et ce qui m'intéressait, c'était le lien entre les habitantes, les habitants et le lieu culturel. Et ça, c'est vraiment un endroit, moi, qui m'intéresse. Parce qu'un spectacle, il existe. Mais s'il n'est pas en relation avec des spectateurs et spectatrices, il existe beaucoup moins, quand même. Les artistes, ils ne jouent pas devant des salles vides. Enfin, en tout cas, on n'espère pas pour eux. Et moi, ça m'intéresse la relation entre des habitants, des habitantes que vous êtes, du plus jeune âge au plus âgé, et des propositions artistiques.
Depuis combien de temps faites-vous ce travail ?
Alors du coup, depuis 15 ans. Mais ce que je peux apporter comme précision, c'est quand je suis arrivée dans CIO, je travaillais plutôt du côté très administratif. faire des contrats pour que les spectacles aient lieu. J'ai eu différentes missions, en fait, pendant ces 15 ans. Ce qui m'a permis, d'ailleurs, de comprendre comment ça fonctionne, en fait, un lieu culturel, un théâtre.
En quoi consiste votre métier ?
Essentiellement, coordonner les activités du lieu de sorte que, à la fois, toute l'équipe ait les informations nécessaires pour son travail et co-programmer la venue des spectacles ici. Il y a aussi une partie de mon travail qui s'appelle la médiation culturelle, et ça, je pense que Lucia vous en a déjà parlé. Lucia, elle s'occupe, en relation avec vous, par exemple, de vous parler des spectacles, de recueillir aussi vos analyses critiques des spectacles. Moi, je fais un peu la même chose, mais avec les grands. Sur Ivry, par exemple, j'organise un club de spectateurs et spectatrices. On discute de spectacles ensemble. J'organise aussi la venue d'habitantes et d'habitantes d'Ivry au Festival d'Avignon pour découvrir ensemble des spectacles. Il y a différentes choses comme ça qui font partie de mon travail, qui sont très différentes.
Y a-t-il une formation spéciale pour exercer votre profession ?
Oui, il y a diverses formations à l'université. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai appris sur le terrain. Mais au fur et à mesure de mon expérience, j'ai fait des formations, parfois d'un mois ou de trois mois, pour enrichir un petit peu mon parcours et pour m'améliorer sur des choses. On peut toujours s'améliorer.
Quel est votre contact avec les artistes ?
Déjà de les accueillir en premier lieu, quand ils arrivent dans cette maison. Des fois, ils arrivent avant les représentations, parfois des semaines avant pour répéter, et c'est essayer de les rassurer, de les accompagner pour qu'ils se sentent à l'aise et confiants sur le travail artistique qu'ils ont à proposer au public.
Qu'appréciez-vous le moins dans votre métier ?
Des journées un peu trop longues parfois, beaucoup de travail. De travailler dans un lieu culturel, de travailler avec des artistes, c'est pas neutre, c'est-à-dire que découvrir et accompagner des objets artistiques, c'est des objets sensibles, c'est plein de sensibilité en fait, tout ça. Et des fois, c'est assez remuant.
Combien de spectacles organisez-vous en une année ?
Une trentaine. Alors chez nous, ça s'organise en saison. C'est comme l'école, c'est-à-dire c'est de septembre à juin. C'est une trentaine de spectacles, mais c'est peut-être 120, 130 représentations. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est dans ces eaux-là.
Pouvez-vous nous raconter une drôle anecdote qui vous est arrivée lors d'un spectacle ?
Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas forcément à l'occasion, à proprement parler, d'un spectacle ici. Je vous ai dit il y a quelques minutes que j'organisais la venue d'habitants d'Ivry, d'habitantes, au Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est un grand festival de théâtre qui se tient au mois de juillet. C'est un des plus gros festivals de théâtre qui existe. Et quand j'organise ça, c'est avec des habitantes et des habitantes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, soit par manque de temps, par manque d'énergie, parce que des fois, ils ne s'y sentent pas trop à leur place aussi. Et chaque année, sous diverses formes, il y a un truc qui se passe, c'est que c'est souvent des femmes qui s'occupent parfois seules de leurs enfants et que le premier jour de leur arrivée, on part 4 jours ensemble, le premier jour, elles sont très préoccupées de leurs enfants pendant qu'elles ne sont pas là. Et le truc qui est très marquant, c'est que très vite, le lendemain, elles n'en ont plus rien à faire de la vie qu'elles ont laissée à Ivry. Et elles profitent très joyeusement de la découverte de spectacles avec nous. Mais c'est aussi moi ce qui est moteur pour moi aussi dans mon métier, ce genre de choses. Voilà. Non pas que les enfants ne soient pas du tout importants et la vie de famille, mais l'idée un peu de s'émanciper, je ne sais pas si ce mot vous parle, d'une vie du quotidien et se permettre d'aller voir des spectacles, d'en profiter joyeusement en groupe, me touche beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Nous
Nous avons écrit des critiques sur les spectacles du théâtre Antoine Vitesse que nous avons vus cette année. Puis nous avons eu des ateliers avec les graphistes de la tractorie Agathe et Anna après chaque spectacle.
Maintenant, nous allons vous parler du deuxième spectacle, La Traversée, que nous avons vu le mardi 24 mars dernier. Il s'agissait d'un spectacle de marionnettes.
Les petits correspondants du théâtre.
Maintenant, nous allons vous parler du deuxième spectacle, La Traversée, que nous avons vu le mardi 24 mars dernier. Il s'agissait d'un spectacle de marionnettes.
Le personnage principal se nomme Alice, une petite fille qui imagine une traversée imaginaire pour fuir la réalité qui est trop violente autour d'elle. Elle traverse ainsi 8 différentes cases d'un jeu d'échecs où elle rencontre différents personnages.
La Reine Noire.
Les ballons jumeaux.
Le cavalier porte-manteau.
Une petite bête fée.
La biche.
Le mouton.
La reine blanche.
Elle se retrouve ainsi tantôt dans des ruines, la forêt, une barque sur l'eau, le couloir d'un train, et enfin face à un grand banquet.
La marionnette était très réaliste et manipulée par 3 marionnettistes, habillés tout en noir. Elle nous faisait un peu peur.
La dame qui l'a construite, sculptée, a dû mettre longtemps avant de pouvoir la manipuler. Les éclairages étaient assez sombres. Ce qui nous a le plus plu, c'est les arbres qui montaient et descendaient avec une douche de lumière.
Le deuxième spectacle était beaucoup mieux que le précédent, qui avait des marionnettes très différentes.
Le son nous a procuré différentes émotions pendant le spectacle. La peur et la tristesse, l'explosion.
La joie. Les ballons jumeaux.
La surprise, Reine Noire.
Les graphistes Agathe et Anna sont venus 2 fois dans notre classe pour réaliser des productions d'art visuel.
Le premier atelier consistait à réaliser des animaux avec des feuilles très colorées, avec le découpage et collage. La classe a beaucoup aimé ce travail artistique.
Lors du deuxième atelier, nous avons découvert plusieurs techniques. Peinture appliquée au rouleau sur différents tampons.
Peinture au pinceau ou avec tampon en mousse éponge.
Très grasse.
Nous avons tiré au sort des mots sur les personnages ou décors du spectacle, La Traversée. Les productions étaient uniquement en noir et blanc.
La technique des tampons avec les rouleaux est la technique préférée des élèves de notre classe.
La radio des écoles d'Ivry.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux qui vous a préparé ces cocktails musicaux. Voilà, ce sont des petites surprises pour les pages musicales. Et aujourd'hui, je vous invite à la promenade, au vagabondage, à la rêverie sur le motif, avec un livre qui va tous vous intéresser, un livre d'Henriette Levillain. C'est Henri D. Thoreau, L'insoumis de Walden, ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Henriette Levillain, bonjour.
Bonjour.
C'est un livre, c'est une promenade, j'allais dire, c'est une réflexion aussi sur ce qu'il reste d'une vie ou d'une œuvre quand on a tout oublié. Henri David Thoreau, ou Thoreau, vous allez nous le dire, c'est un personnage très complexe et c'est ce que j'ai découvert grâce à vous, Henriette Levillain.
Oui, on dit Thoreau, et voilà. Même les Américains ont du mal avec ce nom parce que la terminaison E-A-U n'est pas du tout américaine, puisque la famille est originaire de France. Et que c'était une famille protestante qui, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, a fui évidemment la France, est allée d'abord à Jersey, qui était à ce moment-là anglaise, qui n'était pas encore indépendante, et ensuite un de cette famille est allé un peu à l'aventure, traverser l'Atlantique, la recherche sans doute d'une vie meilleure et d'un rêve peut-être, et aboutit à Boston. Et donc cette famille Thoreau s'est retrouvée à Boston, autour de Boston, et finalement à Concord, qui est cette petite ville à 30 km de Boston, où se sont retrouvés tous les Thoreau. Mais pour terminer avec cette histoire de nom très bizarre, pour nous, c'est bizarre parce que, évidemment, nous entendons ce E-A-U qui semble français, mais nous avons ce fameux TH que nous avons tellement mal à prononcer, si bien que l'autre jour, j'ai eu l'expérience amusante d'une ancienne thésarde qui a un petit garçon de 12 ans et qui a passé devant la radio au moment où je parlais de Thoreau et qui a dit « Maman, il y a, tu sais, ta professeure qui a écrit un livre sur Zorro, ça m'intéresse moi Zorro !» Voilà, donc c'est Thoreau, vraiment, et c'est de Thoreau que nous allons donc parler.
Voilà, alors Henriette Levillain, moi je me suis demandé, j'ai hâte de, c'est le premier livre que je lis de vous, et ça m'arrive souvent, des fois je lis un livre et après j'ai envie de lire les autres livres des écrivains. Et vous avez, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui vous a amené sur les pas d'Henri David Thoreau? Est-ce que c'est Marguerite Yourcenar, par exemple? Parce qu'elle était très écologiste, elle avait une sensibilité à la nature. Alors, vous avez écrit sur Marguerite Yourcenar, vous avez écrit sur Saint John Perse, hein, je vois, sur Virginia Woolf, et un livre qui a été très remarqué sur Catherine Mansfield. Quel est un peu le déclic pour vous, pour Thoreau?
Bon, d'abord parce que effectivement après Catherine Mansfield, dans laquelle je m'étais plongée avec à la fois délices et frayeurs, parce que c'est une femme absolument passionnante, mais en même temps tellement douloureuse, je me suis vraiment posé la question de savoir et après, et que mon éditrice m'a dit alors Henriette, une éditrice que j'apprécie beaucoup et qui me suit depuis Fayard, où elle était évidemment une personne importante, et elle est devenue encore plus importante chez Flammarion. Et donc à ce moment-là, je n'avais absolument aucune idée, et je me suis rappelé que lorsque j'avais vécu aux États-Unis pendant ma jeunesse, j'étais à New York et que un ami qui était à Harvard m'avait invité à venir passer le week-end. C'était le mois de septembre, il faisait très très chaud à New York, me rafraîchir un peu du côté de Harvard, et tout près de Harvard, c'est à Cambridge, il y a cet endroit qui s'appelle Concord, cette petite ville absolument étonnante d'ailleurs. Et à côté de Concord, il y a le lac de Walden. Et il me dit, viens, on va faire de la barque sur le lac de Walden, l'air de dire, c'est l'endroit le plus illustre au monde. Je ne connaissais même pas le nom. Et je ne connaissais pas le nom de Zorro, c'est-à-dire de Thoreau. Et donc, je me suis dit, ben, avec plaisir. Et là, ça a été un enchantement. Un enchantement parce que, évidemment, je sortais de cette cocotte minute qu'est New York au mois de septembre, tout le monde connaît, et j'avais la fraîcheur. Alors, sachant que c'était un lac glaciaire, peut-être que la fraîcheur était encore plus grande, je ne sais pas,